France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 12 décembre. Soyez les bienvenus sur France Musique. Vous êtes au bon endroit pour démarrer le week-end en toute sérénité avec de la musique, des invités, des chroniques. À mes côtés, Félix Levacher est à la réalisation, Adelino Mello et Emmanuel Rose à la technique. Et à 7h45, nous recevrons le chef Leonardo Garcia Alarcón qui partagera un coup de cœur avec nous. Et à 8h30, la réalisatrice Colline Serrault, elle qui fait si bien dialoguer culture et écologie au sein de ses créations. Marc-Olivier Dupont nous fera découvrir à 8h un extraordinaire répertoire d'œuvres à quatre voix dans sa chronique Battement de cœur. À 8h15, Sophie Anastasio nous emmènera à l'Opéra de Rennes à la découverte du festival digital lyrique L'Amour de Loin. Enfin, à 8h50, Christophe Chassol nous parlera d'une fantastique chanteuse-compositrice de néo-soul, Jill Scott. Je vous souhaite un somptueux réveil à l'écoute de France Musique.
Thank you.
Un doux réveil avec cette musique moins connue de Georges Bizet. Un extrait de ce disque Bizet sans parole, deuxième et bel album du pianiste Nathanaël Gouin, opus mélancolique et lumineux qui rassemble plusieurs des pièces et transcriptions pour piano du compositeur ainsi que des arrangements. C'est un disque qui est paru chez Mirare. Et on va poursuivre à 7h35 avec Juan Manuel Serrat, chanteur et auteur de chansons né à Barcelone en 1943, immense star en Espagne et en Amérique du Sud. Il est moins connu en France et il est particulièrement apprécié en Argentine, où il a d'ailleurs reçu un surnom affectueux, on l'appelle El Nano, le gars. Leonardo Garcia Larcón, Mariana Flores et la Capella Mediterránea lui consacré en 2018 un disque de vez en cuando paru chez Alpha. Voici cette chanson romance des Curro el Palmo. L'histoire d'un amour impossible entre la fille du vestiaire d'un bar de flamenco et Curro el Palmo, qui chante ceci en pleurant « Ah, mon amour, sans toi, je ne sais plus pourquoi je me réveille. »
La vida y la muerte, bordas en la boca, tenía merceditas la del guardarropa, la del guardarropa del tablo de la ciudad, un falso gitano exbufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió las capas y se pegó el piro. Se acabó el janeo y el racionamiento. Le tengo el bolsillo y montó este invento. ¿En dónde el palmo canta llorando?
Dime.
buscando el olvido, se dio a la bebida, almos las quinielas y en horas perdidas, se leyó en tirito a don Marcial la fuente, para no ir tras su paso como un penitente. La noche mientras jaleaba farrucas, se escapó Mercedes con un curacopas de clínica propia y roles de contrabando, y entre palma y palma curro fue palmando. Entre pena, la falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patrón al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va el cielo, veréis un tablao que montó Frascuelo, donde por las noches a las buenas almas el corrillo y el palmo sigue dando palmas.
La romance de Curro el Palmo de Juan Manuel Serra, chantée par Mariana Flores. Quito Gatto qui a arrangé cette chanson pour l'ensemble Capella Mediterranea de Leonardo Garcia Larcón, pour des instruments typiques, vous l'entendiez, hein, du XVIIe siècle. Titre que nous écoutions, donc extrait de ce disque paru chez Alpha. Et je vous offre ce matin le disque Liszt, Brahms, Bartok du talentueux pianiste Alexandre Kantorov, paru chez Bis. Programme construit autour de trois rhapsodies, ce genre dont le caractère improvisatoire correspond parfaitement à l'esprit du romantisme et qui est ici sublimé par ces trois tempéraments artistiques très différents, Franz Liszt, Johannes Brahms et Béla Bartok. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous laissez vos coordonnées et la bonne réponse. réponse à la question qui va suivre. Ce matin, je vous propose de deviner de quel instrument joue Alexandre Kantorov. Est-ce du piano, ou bien du piano à bretelles, ou des congas? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Thank you.
Rhapsodie hongroise numéro 11 de Franz Liszt, interprété ici par Alexandre Kantorov, un extrait de ce disque paru chez Bis. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin le claveciniste et chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcón. Bonjour Leonardo.
Bonjour Saskia.
Alors à défaut de voir les salles rouvrir, hein, c'est vous qui allez entrer dans nos chaumières via le site opéra-dijon.fr pour nous faire découvrir un palais enchanté, opéra inédit de Luigi Rossi, nouvelle production de l'opéra de Dijon dont la première a eu lieu hier soir. Dans quel état d'esprit Leonardo Garcia Alarcón, comment s'est déroulée cette soirée ?
Alors, pour moi, c'était une émotion énorme parce que on est en train de créer cette pièce qui date de 1642. C'est un manuscrit que j'ai vu il y a 20 ans à la Bibliothèque du Vatican.
Voilà, vous êtes tombé par hasard sur la partition.
Tout à fait par hasard, parce que j'ai cherché de la musique d'un autre compositeur, Marco Marzoli, mais je suis tombé par hasard sur ce Palazzo Incantato. Plus tard, et j'ai compris, parce que la partition me laissait voir, c'est trois chœurs, double orchestre, 22 solistes. Et cette pièce avait jamais été montée justement par les fastes de tous les moyens et de toute une imagination sans limite que Luigi Rossi a pu développer à Rome à cette époque, même avant l'Incoronazione di Popea de Monteverdi, qu'on connaît très bien, qui a été écrite la même année, mais six mois plus tard. Alors on l'a créée à l'Opéra de Dijon, c'était Laurent Joyeux, le directeur de l'Opéra de Dijon, qui nous a permis de pouvoir créer cette œuvre. Alors hier soir, vous imaginez encore dans la voix, je peux peut-être vous exprimer l'émotion qu'on a tous sentie par cette œuvre qui parle aussi du confinement, des personnes qui sont toutes à l'intérieur des lieux sans pouvoir se rencontrer.
Voilà, c'est l'histoire, pardonnez-moi Leonardo Garcia Alarcón, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui sont enfermés dans un château enchanté, donc un palais enchanté, et d'un mage qui va tout faire pour empêcher l'union des deux Allemands. C'est effectivement un petit peu un écho à notre quotidien, cette histoire d'enfermement.
Oui, absolument. C'est là où on pensait tous être vraiment kidnappés par les mages atlantes. Et à l'Opéra de Dijon, vous pouvez imaginer les masques, les dispositifs de Fabrice Murgia, qui est le metteur en scène, qui a créé justement une scène qui permet justement aux personnages de ne pas se rencontrer, ce qui était idéal aussi pour les répétitions. Mais la pièce parle de cela, ça veut dire à quel point tout le monde arrive dans ces palais et en ayant un désir très fort, c'est-à-dire pour une personne aimée, ou vraiment pour une bataille pas gagnée, ou pour un rêve qu'il n'a pas pu réaliser. Et les personnes sont à l'intérieur et se plaignent de ne pas pouvoir arriver au bout, mais Atlante doit les renfermer, parce qu'il veut protéger Ruggiero de cela, parce qu'il sait que ça va être très mal, ça va se passer très mal dans sa vie s'il rencontre Bradamante. Alors, c'est une histoire, un opéra qui dure presque 4 heures. Et à l'époque, on a dit que c'était un spectacle qui a duré 7 heures. Et alors pour nous, ça signifiait d'utiliser presque une fosse wagnérienne. Ça, ce qui est pour des instruments anciens, c'est qu'on n'est pas du tout habitué à faire. Et c'était une expérience unique que on aimerait pouvoir partager l'année prochaine à Nancy, à Versailles.
Avec et on vous le souhaite, bien évidemment. En tout cas, d'ici là, des diffusions de cette production sont prévues les 13, 15 et 17 décembre sur le site de l'Opéra de Dijon, donc opéra-dijon.fr. Rassurez-nous, Leonardo Garcia Larcón, ça se termine bien ou vont-ils tous devenir fous?
Bien sûr, ça se termine bien. Ça
nous voilà rassurés. Vous nous dites rapidement un petit mot sur votre choix musical qu'on entend déjà sous ma voix, Leonardo Garcia Larcón. Que nous partagez-vous aujourd'hui?
Oui, alors c'est un des chocs de ces derniers mois et ces dernières années. C'est la voix de Julie Rosé, soprano, est née à Avignon, mais qui s'est connue à Genève et qui participe depuis peu de nos productions aussi. Et aussi un hommage à l'ensemble Clématis, dirigé par Stéphanie Defailly, mais surtout évoquer Jérôme Lejeune, le directeur du label
Richard Carr,
qui cette année fête les 40 ans. Et ça, on aurait dû fêter au mois de novembre une grande fête en Belgique pour les 40 ans de ce label qui a édité presque 400 disques déjà, mais pour cette situation sanitaire, ça n'a pas pu se faire. Alors, je voulais les faire directement avec vous dans cette antenne.
Et je vous remercie pour cela, Leonardo Garcia Larcón. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres de bonheur ce matin. Je vous souhaite une belle journée et on vous retrouve sur le site de l'Opéra de Dijon. Bon week-end.
Merci.
Soprano Julie Rosa et l'ensemble Clématis pour ceci Nun Danken alle Gott. Andreas Hammerschmidt, un extrait de ce disque paru chez Richard Carr, label qui fête donc ses 40 ans cette année. C'était le choix musical de Leonardo Garcia Larcón que vous pourrez retrouver donc à l'Opéra de Dijon, mais aussi au mois de janvier, on croise les doigts, le 19 janvier à la Chapelle Royale de Versailles et le 20 janvier à l'Arsenal de Metz.
C'est l'apothéose de l'année Beethoven. France Musique fête le 250e anniversaire de la naissance du compositeur. Festival Beethoven, les 15, 16 et 17 décembre par Aurélie Moreau. Mardi 15 décembre, Beethoven en bretelles, une soirée en compagnie de l'accordéoniste Félicien Bru et de tous ses amis musiciens, présentée par Clément Rochefort. Et beaucoup d'autres rendez-vous, samedi à l'Opéra, Musicopolis, le concert de 20h. À retrouver sur France Musique et francemusique.fr. Maestro, l'émission musicale d'Arte tous les dimanches. Dimanche 13 décembre, le concerto per l'Italia, traditionnel concert donné chaque année sur le parvis du Dôme de Milan. Au programme, le célèbre concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn, avec le violoniste virtuose Maxime Vengerov, l'orchestre de la Scala et le chef Ricardo Chailly. À retrouver dans les émissions de France Musique et francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez la do-ré.
Vous allez l'adorer.
Merci de nous écouter. France Musique, il est 8h. Et comme chaque samedi à cette heure-ci, c'est l'heure de retrouver Marc-Olivier Dupin pour sa chronique Battements de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Aujourd'hui, vous nous parlez de l'écriture vocale à quatre voix. Allons-nous à tout hasard commencer par un choral de Bach, Marc-Olivier ?
Eh bien non, on va commencer par un grand classique, au risque de vous décevoir, un autre grand classique, une polyphonie inspirée de Schubert et chantée par l'un de nos plus extraordinaires quatuors vocales.
Sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert.
Les frères Jacques.
Eh oui, l'écriture à quatre voix permet beaucoup de choses très diverses. Nous allons entendre un autre exemple, cette fois-ci a cappella, avec un autre quatuor vocal star, le Golden Gate Quartet. Écoutons-les dans un extrait de Put On Your Old Grey Bonnet.
Put on your old grey bonnet with blue ribbon on it and we'll hit you dive into the shade. Through the field of clover, we'll all go trucking to Dover on this ever golden Wednesday.
Mais c'est encore un cœur d'homme, Marc-Olivier, et la parité dans tout ça?
Voilà, voilà, on peut distribuer les quatre voix de bien des façons. Ici, nous allons entendre deux femmes et deux hommes dans un groupe Smile, formidable, d'après Charlie Chaplin, de John Turner et Jeffrey Parsons.
Magnifique et mélancolique. Alors, Marc-Olivier, quels sont les avantages d'écrire à quatre voix ?
Alors, pour faire très court, trop court, je ferai appel à des idées affreusement réductrices. Le langage harmonique tonal, celui de la Renaissance jusqu'à une bonne partie de la musique d'aujourd'hui, comme la chanson, le jazz et d'autres, est construit sur des accords simples à la base, des accords composés de trois sons, comme un accord parfait. Je vais vous en chanter un, la, la, la. Alors, quatre chanteurs pour trois sons, cela permet toutes sortes de combinaisons, de relais, de lignes mélodiques en tout genre et dans une certaine liberté. Saskia, vous me pardonnerez cette démonstration bien trop simpliste pour décrire un art de fait très sophistiqué.
Mais nous en comprenons les grandes lignes, ne vous inquiétez pas Marc-Olivier. En remontant davantage dans le temps, avez-vous d'autres merveilles de polyphonie à quatre voix à nous faire entendre ?
Oui, 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 on pourrait tenir cette chronique pendant des années en se limitant à l'écriture pour quatuor vocal, qui existe depuis quasiment l'invention de l'écriture musicale. Voici par exemple une chanson à boire de Pierre Athénian, composée au XVIe siècle. Elle est ici réalisée à quatre voix auxquelles se joignent quelques percussions. Pour plus de réalisme, de mon point de vue, les interprètes auraient d'ailleurs pu plutôt taper sur des verres et des bouteilles.
Merci beaucoup Marc-Olivier, on vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Je vous souhaite un très très bon week-end.
À vous aussi.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Thank you.
Cette romance, deuxième mouvement du premier concerto pour piano de Frédéric Chopin, interprété par Seong Jin-cho, le London Symphony Orchestra, Gianandrea Noseda à la direction. 8h15, c'est l'heure de notre reportage. Hier, la Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu était diffusée en direct depuis l'Opéra de Rennes sur France 3 Bretagne et sur Internet grâce au festival digital lyrique L'Amour de Loin organisé par les Forces Musicales. Une façon de faire vivre dans un premier temps ce projet porté par la coopérative avant qu'il ne rencontre physiquement le public l'année prochaine. Sophia Anastasio s'est rendue en Bretagne pour assister à la générale de la captation.
Hier, le public aurait dû être présent à Rennes pour assister à la Dame Blanche, projet porté cette année par la coopérative. La première était prévue à Compiègne le 6 novembre dernier, mais en raison de la crise sanitaire et du second confinement, c'est pour le moment grâce aux captations qu'a survécu ce spectacle. On écoute Mathieu Ritzler, directeur de l'Opéra de Rennes.
Ça a été des hauts et des bas. En tout cas, il y a eu une vraie frustration de toute l'équipe au moment où on s'est arrêté à la Générale Piano. C'était au Théâtre Impérial de Compiègne. Et puis, en se disant, bon, il faut se résigner. On repousse le projet d'un an. Et la tournée d'une vingtaine de dates est bien repoussée à la saison 21-22. Donc, cette Dame Blanche fera le Tour de France. Mais en même temps, on s'est dit, on peut pas en rester là. Et puis, il y avait une conjonction de partenaires qui avaient envie de soutenir le projet, et on a réussi à monter ce projet audiovisuel pour donner une première vie à l'image avant la vie sur les planches la saison prochaine.
Grâce aux équipes de France TV et au festival digital L'Amour de Loin, le spectacle a donc été capté hier, diffusé en direct sur France 3 et sur les sites de plusieurs orchestres et maisons d'opéra. Stéphane Lebar était chargé de la réalisation. Et si les spectateurs manquent beaucoup, explique-t-il, leur absence offre cependant une plus grande liberté dans le placement des caméras et elle permet de créer une autre intimité avec le plateau.
Les chanteurs vont cohabiter avec une caméra, ils cohabitent déjà avec elle depuis aujourd'hui. Ça fait en sorte qu'on se connaît. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tournages, on prend le temps de faire ça, mais voilà, les cadreurs savent comment s'appellent les chanteurs savent comment s'appellent les cadreurs, et on fait cette chose-là dans cette complicité-là. Donc je pense que c'est cette intimité qu'on va offrir aux spectateurs. Donc la différence, elle n'est pas tellement dans la liberté d'organiser le tournage, mais peut-être plus dans la relation que ça a créée entre le tournage et l'équipe artistique. Et on va essayer de vous la traduire en image, cette complicité entre nous. Voilà.
Tournée qui était prévue cette année est donc reportée à l'année prochaine dans les théâtres qui coproduisent ce spectacle à Compiègne, Rennes ou encore l'Atelier Lyrique de Tourcoing. Ils sont réunis au sein de la coopérative Société en Participation qui fait voyager les productions lyriques partout en France. Elle accompagne également le développement de la carrière de jeunes artistes comme le ténor Seyir Attia. Il interprète ici le rôle-titre.
Ça m'aide vraiment parce que ils connaissent les répertoires qui me vont, et c'est pour ça qu'ils ont organisé cette Dame Blanche avec moi, et ça m'a permis de vraiment de progresser, de roder les rôles, et surtout de m'adapter aux différentes salles qui sont vraiment très très différentes. Par exemple là, avec le théâtre de Compiègne, c'est complètement différent d'ici à Rennes, donc ça me permet d'évaluer aussi mon environnement, donc ça me fait progresser.
Pour interpréter le rôle de George Brown, le ténor Seyir Attia porte sur la tête une crête de plumes chatoyante. La mise en scène a été confiée à Louise Vigneault, elle aussi soutenue par la coopérative. Avec sa première mise en scène d'opéra, elle a souhaité transposer cette œuvre qui se passe dans l'école fantasmée par Walter Scott au XIXe siècle au monde animal, en répondant à cette question.
Comment nous, on peut avoir certaines recettes pour redonner sa brillance à cet opéra qu'il a un peu perdu parce que nous n'avons plus les mêmes codes. C'est vrai que la fable animalière, j'ai l'impression que par les Walt Disney, par les choses comme ça, aussi par les fables de La Fontaine, bien sûr, je dirais c'est très courant en fait. Et c'est ce rapport-là de code courant qu'on a travaillé. Par l'animal aussi, on amène une critique, une réflexion. Et c'était ça aussi qui m'intéressait, créer cette distance-là un peu critique avec l'œuvre pour rendre le spectateur plus conscient de ce qu'il est en train de regarder, se laisser embarquer dans l'histoire, bien sûr, mais qu'il se fasse aussi un avis sur les choses.
À quel plaisir d'être soldat, à quel plaisir d'être soldat, on s'aime à sa vaillance, et son prince, l'État.
Une version montée de la captation sera diffusée dans quelques semaines par les différents théâtres de la coopérative, avant une tournée donc en chair et en os la saison prochaine.
À quel plaisir, à quel plaisir.
La Dame Blanche, c'est donc avec l'ensemble Les Siècles, dirigé par Nicolas Simon, qui lui aussi est couvert d'une coiffe de plumes sur la tête. Merci beaucoup, Sophie Anastasio, pour ce reportage.
Thank you.
Isabelle Faust, Jean-Guy Nkeras et Alexander Menikov ici pour ce scherzo du 7e trio, trio archiduc de Beethoven. Un extrait de ce généreux coffret qui réunit tous les enregistrements de chambre de Beethoven réalisés par ses trois grands solistes, tant sur instruments d'époque que sur instruments modernes. Coffret paru chez Harmonia Mundi en partenariat avec France Musique. Allez, un petit mot sur ce Noël enchanté concert en ligne qui sera donné le 19 décembre prochain par l'ensemble Aedes et Mathieu Romano, les chanteurs qui vous invitent à vous installer confortablement dans votre canapé et à vous préparer à chanter aussi, puisqu'au programme il y aura Petit Papa Noël, les motets pour le temps de Noël de Poulenc ou encore Stille Nacht, pages inoubliables, mais aussi des œuvres arrangées pour chœur a cappella. Rendez-vous donc le 19 décembre prochain à 19h sur les pages Facebook de La Cité de la Voix et de l'ensemble Aedes, mais également sur la chaîne YouTube de La Cité de la Voix.
Thank you.
Les dernières notes de ce magnifique requiem de Gabriel Fauré par l'ensemble Aedes, les siècles. Et Mathieu Romano à la direction, l'ensemble Aedes qui vous donne donc rendez-vous sur sa page Facebook le 19 décembre prochain à 16h pour un concert de Noël.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et à 8h30 ce matin, je reçois une personnalité aux multiples facettes. Elle est à la fois cinéaste, metteur en scène de théâtre et d'opéra, autrice, actrice, compositrice, chef de chœur. Son engagement en faveur de l'écologie se reflète dans sa vie et à travers ses créations. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Bonjour Colline Serrault.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Que trouvez-vous dans l'art que vous ne trouvez pas ailleurs?
Ah, ça, c'est la question du matin. Alors,
voilà, on est parti.
Il va falloir faire une grosse disserte. Moi, je ne sais pas, on est tous nés pour faire un truc. Il n'y a pas d'hierarchie pour moi. Bon, moi, je suis né pour faire ça. J'ai ça dans les pattes et il y a d'autres trucs que je ne sais pas faire. Il y a des gens formidables qui travaillent le bois. Il y en a qui sont des extraordinaires organisateurs. Il y a des hommes politiques plus ou moins bien, mais enfin, ils sont doués peut-être pour ça. Et voilà, chacun est doué pour quelque chose dans la vie. Et moi, je pouvais pas faire autrement que peindre, dessiner, faire des photos, faire de la musique. Voilà, c'était mon truc, quoi.
Voilà. En tout cas, on le sait, hein, vous êtes une réalisatrice militante, vous faites dialoguer écologie et culture depuis de longues années. Avez-vous, Colline Serrault, constaté une évolution quant à la manière dont cette thématique du développement durable, de l'écologie, est abordée dans la culture?
Ah oui, j'ai noté une énorme différence. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire des films qui soient utiles pour la beauté, mais pour aussi la société. Alors, quand j'ai constaté comment était fabriquée la société, j'ai vu qu'il y avait deux désordres majeurs, qui étaient l'une, le patriarcat, qui était quand même un désordre épouvantable, qui n'a fait que des horreurs, et puis le deuxième désordre était celui de l'écologie, où, qui était d'ailleurs une conséquence directe de la façon de considérer la Terre. Et la mère et la femme d'une manière générale comme quelque chose qui doit juste servir, voilà. Et donc on est arrivé à un désastre écologique. Mais et moi, avec les films, j'essaye de créer des bulles de paradis, de beauté, qui par leur existence même luttent contre tous ces désordres. Je ne suis pas une femme politique parce que une femme politique, vous devez dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je suis dans un monde dont je constate les désordres et j'essaye par la beauté, par l'art, qui est la chose avec laquelle je peux m'exprimer, de donner l'envie d'autre chose.
Et ce message est-il plus facilement entendu aujourd'hui, en 2020, que par le passé?
Oui. Ben oui, parce qu'on approche plus de la catastrophe. Donc les gens commencent à être plus conscients. C'est sûr que par le passé, ben, quand j'ai fait La Belle Verte, c'est pas le passé, hein, c'est pas il n'y a pas tellement longtemps.
96.
Oui, enfin, c'est le passé pour des gens qui sont très jeunes, mais j'avais commencé, moi, à faire des choses en 70. Donc, voilà, il y a très longtemps que je me bagarre. Mais c'est vrai que La Belle Verte, par exemple, ça a été un four épouvantable quand c'est sorti. Et puis maintenant, c'est devenu un film, sans envoyer des fleurs, mais un film culte, c'est-à-dire que les gens s'en servent pour penser autrement. Et c'est ça qui me réjouit d'un côté, parce que tout d'un coup, c'est venu. Il y a une conscience qui est née, mais d'un autre côté, je suis triste parce que je vois bien qu'on va pas dans le bon sens, quand même, quoi.
Et c'est vrai que La Belle Verte est une fabuleuse fable écolo à voir, hein, chers éditeurs, si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, Colline Serrault, mardi dernier, c'était la Journée mondiale du climat. Nous fêtons aujourd'hui les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. On entendait hier Nicolas Hulot en parler comme d'un combat déjà perdu. Est-ce un sentiment partagé?
Je pense que oui, sans vouloir être catastrophiste et pessimiste, il y a des énormes vertus de résilience dans l'humanité. Il y a la jeunesse qui a conscience, qui a de la force et qui trouvera des solutions, qui est inventive. Mais c'est vrai que les dirigeants actuels, c'est après moi le déluge, quoi. Ils ont pas tellement la conscience comme l'ont les femmes, parce que les femmes, elles sont proches des générations futures, bien plus proches. eux, ils s'en fichent un petit peu, quoi, de ce qui viendra après eux. Ils sont dans le pouvoir et dans l'avoir. C'est vraiment la philosophie la plus intelligente, c'est de dire qu'on n'est que de passage et qu'on doit léguer à nos enfants un truc mieux que ce qu'on a reçu, en gros. Ben, c'est pas ce qu'on fait, voilà. Ils trouveront des solutions. La planète, de toute façon, on vivra très bien avec ou sans nous.
J'aimerais lire un extrait de ce livre que vous avez fait paraître chez Actes Sud, hashtag Colline Serrault, et vous nous écrivez ceci, l'humain dernier arrivé sur la planète parmi les diverses apparitions de la matière vivante s'est toujours vu, en tout cas dans le récit mythique des religions monothéistes, comme un achèvement, comme l'œuvre d'un dieu, une perfection enfin advenue après que toutes les autres créatures vivantes et bien entendu inférieures ont bredouillé des existences imparfaites par que peut faire, Colline Serrault, l'art pour continuer à faire changer les mentalités, à sensibiliser?
Elle est bien, cette phrase.
Elle est très, très bien. Très juste.
Non, l'humain est le dernier arrivé. C'est un espèce de nourrisson informe dont la conscience, qu'il a érigée en une espèce comme un truc formidable. La conscience, c'est quelque chose qui l'empêche de voir, simplement. Et il est à un stade vraiment très infantile, l'humain. Il est en train de détruire son propre écosystème. Il n'y a aucune espèce vivante qui fasse ça. Je pense que c'est dû à son arrivée tardive dans le monde vivant. Ou bien il disparaîtra et ça sera un ouf de soulagement pour tous les autres vivants, les animaux particulièrement, puis bien sûr les plantes. Mais ou bien il s'adaptera intelligemment à ce qu'est sa vraie nature, c'est-à-dire un cosmos comme une espèce de soupe dans laquelle il doit trouver sa place, pas plus, pas moins que les autres, quoi. On partage et on échange, il y a des bagarres aussi, mais je veux dire que il a une place dans ce cosmos, l'humain, mais pas prépondérante. Il va falloir que cette grande blessure narcissique de se dire « je suis pas le mieux » advienne. C'est-à-dire « je suis pas le mieux, il y a plein de trucs mieux que moi, n'importe quel arbre est beaucoup plus intelligent que moi, eh bien je vais essayer de m'en inspirer et de comprendre à quel point ils sont sages, intelligents et depuis combien de temps ils sont là et comment je devrais peut-être faire comme eux. Voilà. »
Ehre sei dir Gott, der Sohn.
Un extrait de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, le choix musical de notre invité ce matin, Colin Serrault, est avec nous. Bach, qui fait partie de ceux qui ont façonné votre parcours, votre réflexion. Je crois que vous l'écoutez même lorsque vous écrivez, Colin. Que vous murmure-t-il ?
Oui, ah ben, de toute façon, j'en joue déjà tous les matins avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est ce qui me met en route pour la vie. Et puis, là, ce qu'on a entendu, le Erez Aedia Gott de l'Oise, c'est bien, ça tombe bien, en plus c'est en décembre. C'est un autre tube dans le chœur que je dirige, et on le sent tout le temps, et c'est une espèce de prodigieuse vitalité, et des complexités, hein, dans ce qui est génial avec Bach, c'est cette espèce de, cette complexité, et c'est admirablement écrit, le thème de la fugue est complexe. Hein. C'est compliqué comme rythme, etc. Et ça se décline de manière totalement naturelle et simple. Ça, c'est vraiment Bach. C'est quoi la question que vous posiez?
La question était de savoir ce qu'il vous murmurait, Jean-Sébastien Bach.
Là, il me dit... c'est quand même une musique très... C'est pour Gott et tout ça. L'interprétation, là, est extrêmement belle parce qu'elle est très, très, très vitalité, comme ça, vitalité, pleine d'énergie, un petit peu militaire pour moi. Il y a des moments où il faudrait que ça soit un peu plus doux, mais bon.
Enfin, on passera le message à John Elliott Gardiner, c'est promis. Vous nous dites ceci aussi, Colin Serrault, la facture, vous m'entendez ?
La vitalité reprendra toujours. Et il glorifie Gott. Moi, à la place de Gott, je mets l'énergie, je mets l'univers, je mets la nature, je mets le cosmos. C'est pas grave. On peut dire Gott ou autre chose.
Et vous nous dites effectivement, la facture de sa musique ressemble à la musique de Jean-Sébastien Bach, ressemble à celle des arbres. Que voulez-vous dire par là ?
Oui, c'est-à-dire que vu de loin, si vous voyez Erez Aedia Gott, bon, vous avez A, la partie A, la partie B centrale, puis reprise de la partie A, tout semble très symétrique, etc. Les tugres distribués aux quatre voix qui reviennent d'abord par le haut, puis ensuite par le bas, etc. Ça paraît extrêmement mathématiquement... Et en fait, quand vous connaissez bien la partition, quand vous regardez de près, c'est un bazar, c'est une liberté, c'est tout le temps différent. Il y a des changements d'harmonie, il y a des changements de rythme à l'intérieur même des parties. Et c'est pareil pour les arbres, par exemple. Quand vous regardez un grand chêne très beau au milieu d'un champ, vous voyez un truc parfaitement équilibré, qui a l'air très symétrique et tout. Et vous rentrez dessous et c'est un bazar. Ça pousse dans tous les sens. Les branches, ici, là, à gauche, ça fait des coins, ça fait des angles. Mais parce qu'il y a une rigueur dans la, il y a une liberté dans la rigueur, une rigueur dans la liberté. Et que c'est vraiment ces deux forces antagonistes qui fabriquent le monde tout le temps. Et Bach, c'est le plus fort là-dedans parce qu'il est un immense mathématicien en même temps qu'un homme libre.
Et c'est un monument également à l'égal de la nature qui brave les siècles, Colin Serrault. Si l'art participe à l'éveil des consciences, est-ce que les artistes doivent aujourd'hui aller plus loin ? Et je reviens à ces questions de développement durable, d'écologie qui nous occupent. Et surtout, que faire lorsque les salles de spectacle et les cinémas restent fermés ?
Oui. Alors ça, c'est vraiment un scandale, quoi. Je veux dire, moi, je prends le métro, hein. Régulièrement, je suis une personne qui prend le métro, j'aime bien être avec les gens. Si vous saviez comment le métro est bondé, si vous saviez comment les supermarchés sont bondés, alors que les salles de cinéma, les salles de théâtre et les salles de concert, vous imaginez la vie des musiciens en ce moment, depuis le mois de mars, il n'y a plus aucun concert jusqu'en janvier, février 2021, mais ils s'en fichent de nous, ils s'en fichent de la culture, ces gens-là. C'est vraiment des peu, des beaufs et des béotiens. Je hais ce mépris qu'ils ont pour la culture, pour nous, alors que la culture, c'est plus que l'automobile sur le plan économique dans ce pays.
Que l'industrie de l'automobile, effectivement.
Oui, mais je pense qu'en fait, ils ont peur de nous. Voilà. Ils ont peur de ce qu'on dit, de notre vérité, mais de ce qu'on dit, de ce qu'on parle. Alors, les salles de spectacle et tout ça, les salles de concert, les musiciens, ils ont dépensé des sous pour faire des choses hyper dans les clous sur le plan de sanitaire, etc. Et on leur remet ça dans la figure, comme les restaurants et les cafés. Mais là, dans les cantines, les gens s'écrabouillent dans les cantines d'entreprise, et on n'a pas le droit d'aller dans un restaurant où ils ont tout fait pour nous éloigner les uns. Non, mais je veux dire que tout ça, c'est, je veux dire, c'est Big Pharma qui dicte la politique de ce pays, c'est tout.
Et c'est vrai que c'est une grande tristesse. On va continuer à suivre ce sujet plus qu'important, évidemment, sur France Musique. Colline Serrault, quand même, on vous le souhaite, avec la réouverture des salles dans les mois à venir, des concerts à venir au mois de mars avec votre chorale du Delta que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis cette exposition dont le vernissage a lieu tout à l'heure à 17h, galerie éphémère située 52 rue François Coudreux à la Charte-sur-le-Loir. Pour ceux qui nous écoutent, des photos, des dessins, parce que vous êtes une artiste protéiforme, je le disais, Colline Serrault. Merci beaucoup d'être avec et d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on se quitte avec votre autre choix musical, Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille, quelle merveille. Merci beaucoup, Colline.
Merci à vous. Merci.
Et à très bientôt.
Bonne matinée.
Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.
Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille, pour clôturer bien cette rencontre avec Colline Serrault ce matin sur France Musique. Il est 8h50. Et c'est le rendez-vous qu'on ne manquerait sous aucun prétexte, la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
On va parler d'une femme ce matin.
Oui, d'une femme, une compositrice, chanteuse, qui est actrice maintenant et qui a sorti un album mais dingue, fantastique, en 2000. Il y a 20 ans pile, et elle s'appelle Jill Scott. Le Charleston est déjà un peu en retard. Apparemment, l'amour lui a plu dessus. Love rain down on me.
C'est beau.
Ouais, c'est beau. Elle parle beaucoup de sexe. Elle parle beaucoup d'amour. Voilà, elle parle d'un mec là. Said he wanted to talk about my mission, listen to my past lives. Took me on long walks to places where butterflies rest easy. Talked about roses and Mumia, reparations, blue colors, memories of shell type Adidas. Il y a du Rhodes, piano électrique, la basse, la sub-bass, des basses très très basses.
et de la batterie. Et elle rappe en fait. Hein. Elle chante, elle rappe. Elle vient du spoken word, c'est-à-dire du, de ce qu'on appelle le slam. Quoi. Enfin, elle vient du rap en fait, dans un sens. Mais c'est une vraie chanteuse de jazz aussi. Elle fait de l'opéra, elle a une grande tessiture. Et elle se place. Elle a vraiment un placement rythmique unique. His horn section, his boom and his bit, and he was my love. Blood rain down on me, on me. Donc ça, c'est sorti en 2000, en même temps que l'album de D'Angelo, Voodoo. Et je me suis fait la réflexion que c'était vraiment le pendant féminin.
Féminin.
Je sais pas, mais bon, c'est un petit peu facile de dire ça, mais vraiment, ça a changé beaucoup de choses, cet album. Moi, je l'écoutais tellement, je suis très ému là de l'écouter. Je sais même pas comment j'ai oublié en tout son temps de chronique de vous faire écouter Jill Scott. C'est pas Jill Scott comme le rappeur, poète, G-I-L Scott, Jill Scott Heron. Là, c'est Jill.
Et, J-I-L-L.
J-I-L-L, voilà. Elle est née en 72, maintenant c'est une actrice assez connue, mais voilà, elle est de Philadelphie. C'est vraiment l'avant-garde du R&B, en fait. C'est vraiment du, ça s'appelle la New Soul, quoi, la Neo Soul. Et que vous dire, y a tous les morceaux sont bien sur l'album. On va écouter dans ce même morceau qui s'appelle Love Rain, une façon qu'elle a de se placer rythmiquement, de poser sa voix. Et écoutez, alors ça fait. The rain was falling and I could not see. Alors vous allez voir comment tout est un peu décalé, tout un peu en retard, mais il y a un stealth swing. Wildly staccato, the rain was falling and I could not see that I was to be plowed and sown and fertilized and left to drown in his sunny afternoon. Juniorless clouds, 84 degrees. Elle est en retard et en avance en même temps, mais bon, voilà, les influences, on entend, hein, Erykah Badu, elle a bossé avec Erykah Badu, Minnie Riperton, Dennis Williams, elle a bossé avec beaucoup, beaucoup de monde, donc Common. Elle a été découverte, on va dire, par Amir Thompson, qui est Questlove, le batteur du groupe The Roots, qui est fantastique aussi, voilà. Et puis, elle a gagné plein de prix, plein de Grammy, voilà. Elle est très, très connue là-bas. Et je vais vous faire écouter un autre morceau qui s'appelle Watching Me, qui est déjà qui parle déjà des violences policières, de drogue. That you're blind, baby, you neglect to see the drugs coming into my community, weapons coming into my community. De policiers corrompus. Et pourtant, tu dis que je suis libre. And you keep saying that I'm free. Je vois partir, c'est ce qu'il y a.
Ah ouais, c'est parfait. Bon, hein. Ah ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup.
Et un autre morceau. Moi, mon morceau préféré, c'est celui qui s'appelle Honey Molasses. Ça veut dire de la mélasse, du miel, du sexe, du stupre. Voilà, elle est là-dedans, elle. Sweet Epiphany. Écoutez ce beat. I waited for your call, but you chose not to call me. I wondered what happened. Were you inside a safe space? And two, I wondered, were you thinking about me? And if you were, why was I feeling so lonely by the phone, alone to the bone? Although the night before you were in my home, my body, my dome, in a circle of passion, we Paris, Italy, Japan, Africa, Rome. C'est tout simple, hein, c'est des tourneries, c'est une tournerie par morceau, d'accord, mais tellement bien produite, avec la batterie toute mate, les sub-bass bien enveloppantes, et elle se pose comme un... Enfin, elle surfe, quoi, là-dessus. Hein. Allez, un autre morceau avec une note un peu bleue, c'est The Way. Des arrangements de cordes. On va écouter quand elle reprend le couplet. Écoutez à la reprise la note qu'elle va choisir de faire. Une des notes. 4:30, can't wait to get home. Et là, no girl. Girl. Allez, si on a le temps rapidement pour un dernier morceau qui s'appelle It's Love, voilà, parfait exemple de très bon arrangement d'empilage. This feeling I cannot hide. It ain't a question of pride. Si vous aimez ça, écoutez aussi D'Angelo, l'album Voodoo dont je vous ai déjà parlé.
Absolument.
Et puis tout ce qu'elle a fait, elle aussi. Et puis les albums de Minnie Riperton et de Dennis Williams aussi. Attention, ça va partir. They say I'm tripping the way you got my whole life flipping. Il y a plein d'arrangements de cuivre aussi. C'est très très riche, vraiment. Tous les morceaux sont bien. Jetez-vous sur cet album qui s'appelle Who is Jill Scott de 2000. Voilà.
Merci beaucoup Christophe Chassol de nous faire passer une matinée sensuelle sur France Musique avec Gilles Scott, qui termine donc cette émission, cette chronique. Alors le moment que vous attendez tous, hein, c'est le résultat du concours, de la question qui a été posée un petit peu plus tôt. On va peut-être demander à Gabriel Olivier Aguillon de jouer aussi. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Hello.
Alors de quel instrument joue Alexandre Kantorov? Est-ce du piano à bretelles ou des congas?
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme blague, Christophe?
J'ai pas de blague, j'ai rien là. J'étais dans Jill Scott.
Allez, enfin. Elle est du piano et c'était très beau.
Vous avez eu une semaine pour vous concerter. Mais voilà, c'est pas grave. Bravo, Gabriel, vous avez gagné le disque, comme certains de nos auditeurs qui seront contactés
elle l'a déjà
très
gratuitement,
prochainement
le disque.
Pour avoir ce magnifique disque de ce très talentueux pianiste, cela dit.
Voilà, je pensais donc que c'était un congiste.
Aussi, à 16 heures perdues. Voilà qui me laisse
le temps. On vous attend maintenant, allez.
Évidemment, remercier toute l'équipe, Marie Ferdinand, Félix Levachet, Adelino Mello, Emmanuel Rose.
À réécouter sur francemusique.fr.